Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
10h10 sur RMC, vous écoutez les grandes gueules du sport. Jusqu'à midi, Pascal Duprat, David Douillet, Jérôme Pinault et Christophe Cessieux ce matin. Les grandes gueules qui, vous le savez, sont à retrouver en podcast tous les jours. Et vous pouvez notamment retrouver toutes nos infos et notre débat sur le Qatar et le championnat de France. On a également vécu en direct la première manche du slalom de Clément Noël en direct des championnats du monde de ski avec peut-être la première médaille pour les Français. Et bien, on suivra la deuxième manche évidemment sur RMC tout à l'heure. Dans une heure, les JO 2030 au menu des GG, puisqu'on a vécu la nomination d'Edgar Gros-Piron à la tête du COJO. La comparaison avec Tony Estanguet et les JO 2024 est évidente, mais est-ce que le match est perdu d'avance? Ce sera à 11h32-16 pour nous rejoindre. Et puis, vous le savez, dans 45 minutes, les grandes gueules contre-attaquent. Elles vous proposent un débat et c'est vous qui choisissez pour le meilleur débat. Vous allez sur le compte X des grandes gueules du sport et vous choisissez votre débat. On va commencer par toi, Christophe. Quel est ton débat du jour?
Moi, j'ai envie de vous parler de rugby. J'ai envie de vous parler d'une nation qui est en train de tout gagner à l'échelon légèrement inférieur. Cette nation, c'est la Géorgie, qui vient encore une fois de remporter le championnat européen des nations, qui est le tournoi des six nations bis. Et normalement, quand tu gagnes à l'échelon inférieur, bah, tu montes à l'échelon supérieur et tu vas te mesurer aux autres. Mais c'est pas comme ça. Non, les Britanniques, ils veulent pas. Ils veulent rester entre eux. Ils nous ont acceptés, nous, les Italiens et les Français, mais ils veulent pas des Géorgiens. Ils veulent pas aller à Tbilissi parce qu'il n'y a pas assez de blé à se
D'accord.
faire. Donc voilà, moi, je vais insister pour que la Géorgie intègre le tournoi
des sept nations.
Bah, non, avec un voilà, montée, rétrogradation.
Pourquoi pas. Voilà. Pascal.
Eh bien, moi, je vais aussi parler de rugby. Je ne vais pas aller à Tbilissi, mais je vais plutôt aller en Bretagne. Je vais aller à Vannes. Ah. Voilà, parce que hier, Vannes a gagné au Racing. Et je me souviens de certains commentaires en début de saison du top 14 qui disaient que cette saison, le top 14 se jouait à 13 avec Vannes promis en 14e, promis à la relégation comme un faire-valoir. Eh bien, moi, je pose une question à vous tous. Si les Bretons se maintenaient?
D'accord. On n'a pas encore la réponse. On en parlera peut-être.
Ils sont à 3 points de leur concurrent hier.
Pour l'instant, ils sont derniers, mais ils ont fait un match
super. Ils sont pas loin.
Ouais, deux victoires consécutives.
On aurait pu faire un débat sur le Racing aussi, qui est vraiment très très mal.
On peut.
David Douillet, ton débat, David.
Moi, mon débat, j'ai envie de parler du sport pro français et j'estime qu'il est en grand danger. Avec le foot où le torchon brûle entre la Ligue et le diffuseur d'AZN et financeur. Le rugby qui est face à la fédération, qui est face à un redressement fiscal plus que significatif, qui pourrait la mettre en cessation de paiement. Puis le basket avec des clubs qui sont dans des situations, que ce soit en Betclic Elite Pro A ou Pro B, très difficiles avec des trous financiers. Donc ma question, c'est les dirigeants des sports pro sont-ils des amateurs?
Ok David, et toi Jérôme?
Eh ben moi je vais faire court cette semaine. On a vu Tadej Pogacar sur les pavés de la tranchée d'Arenberg. Est-ce que ça veut dire que Tadej Pogacar va participer à Roubaix? Et est-ce que si Tadej Pogacar participe à Paris-Roubaix, est-ce que c'est une bonne idée? Oui ou non?
Très bien, merci d'avoir fait court, Jérôme.
J'avais promis.
Et bravo. C'est très très serré déjà. Vous pouvez aller voter sur le compte X des grandes gueules du sport. Très serré, on fera un point tout à l'heure et à 10h45, le résultat de vos votes.
RMC. Le bras de fer GG.
Sinner qui change, qui va sur le coup droit, qui lâche le coup droit, c'est gagné. Yannick Sinner qui s'allonge sur le dos.
Je sens ébourmi la dose.
Ceux qui me connaissent très bien savent que je n'ai jamais fait et que je ne ferai jamais quelque chose qui va à l'encontre des règles.
Après, c'est inutile. Toi, tu vas rentrer dans la cage, toi, tu ramasses la loupe et tu tires.
C'est fini. Oh là là, une leçon tactique. La balle de match résume tout. Il a maîtrisé de A à Z son tennis.
I kept playing tennis.
En ce qui me concerne, je crois que j'ai continué à jouer au tennis parce que dans mon esprit, je savais que je n'avais rien fait de mal.
Troisième titre majeur pour Yannick Sinner.
Mais de vous voir, ça m'a dopé. Et j'ai gagné, vous comprenez? Gagné!
Yannick Sinner a été suspendu 3 mois hier par l'Agence mondiale antidopage. Suite à un accord, il échappe à une suspension plus lourde, une suspension d'un ou deux ans que réclamait l'AMA. Son appel devant le tribunal arbitral du sport prévu mi-avril est donc annulé. Il reprendra sans doute la compétition en mai pour le Masters 1000 de Rome chez lui et manquera Indian Wells, Miami, Monte Carlo et Madrid, mais pas de tournoi du Grand Chelem. Une affaire qui a fait vivement réagir dans le monde du tennis. On le verra dans un instant avec Eric Salio, mais d'abord, La question que l'on vous pose, la lutte antidopage est-elle décrédibilisée? Dans le coin droit, pour ce bras de fer, la team oui, Jérôme Pinault, Pascal Duprat. Dans le coin gauche, la team non, David Douillet, non, mais... Christophe Cessieux. Mais il va nous expliquer.
Non,
c'est pas, moi, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que la lutte antidopage est décrédibilisée depuis 20 ans.
Duprat,
donc ça n'en rajoute pas. Okay. Elle l'est depuis le départ, ou quasiment depuis le départ.
Bon,
elle ne rime à rien, la lutte antidopage.
Okay, bah donc
surtout de cette manière.
C'est non.
Bah non.
Elle n'est pas décrédibilisée.
Elle l'était déjà.
Ah, d'accord, très bien. Le sondage sur le compte X des grandes gueules du sport, c'est pour l'instant, eh bien, une écrasante domination de la team. Oui, la lutte antidopage est-elle décrédibilisée? J'ai pas le chiffre, je vais vous le donner dans un instant. Oui à 89%, non à 11%. On accueille d'abord Eric Salio. Salut Eric.
Salut les grandes gueules.
Ah oui, lui, il n'est pas du tout décrédibilisé par contre.
Non, moi ça va. Moi.
Quelle voix? Je sais pas. La voix du tennis pour RMC.
La voix du tennis.
Depuis hier et cette annonce de suspension, donc Eric, on a vu que le monde du tennis avait vivement réagi. Hein.
Écoutez, on n'y comprend plus grand-chose. Il y a de l'écœurement chez certains joueurs. Le tweet de Stan Wawrinka hier après-midi, je ne crois plus à un sport propre, a eu un effet dévastateur, mais ça saute désormais aux yeux. Tout se négocie. Pour ne pas perdre la face, l'AMA voulait une sanction. Le clan Sinner voulait limiter la casse. Allez, va pour 3 mois. Hasard ou coïncidence, le numéro 1 mondial pourra reprendre la compétition chez lui aux internationaux d'Italie. Il rattrape Roland-Garros, il garde ses titres à l'US Open, à l'Open d'Australie. Daniil Medvedev l'a bien résumé hier soir à Marseille. Plus t'es riche, plus tu peux trouver un arrangement.
C'est la vie qui est comme ça, ça dépend de l'argent pour l'avocat, parce que c'est eux qui font le travail, c'est pas Yannick qui a discuté avec le directeur de l'AMA, c'est les avocats, et le mieux avocat que tu prends, le mieux c'est, mais ça c'est pas que dans le tennis, c'est dans le monde entier. En fait, c'est un mauvais signal si c'est que lui qui peut faire ça, mais c'est un très bon signal si après ça, tout le monde va pouvoir faire ça.
Maintenant, il faut rappeler que la dose du Clostable retrouvée dans le corps de Sinner était infinitésimale. Les experts ont prouvé qu'il n'y avait pas de matière à améliorer la performance, mais ça peut cacher autre chose. Et Sinner, surtout, est responsable de son équipe qui a été négligente, donc la sanction était inévitable. Mais la manière dont cela s'est fait à l'intérieur d'un bureau interpelle avec son humour grinçant. Daniil Medvedev n'est plus loin d'assimiler cela à une discussion de vendeur de tapis.
J'espère que les prochaines fois, les joueurs pourront faire ça, entre guillemets, parler au lama. Et il y a lama qui dit, bah voilà, on a trouvé ça, tu reçois 2 ans. Et toi, t'es là, tu dis, bah non, je veux 1 mois.
Voilà, il a eu 3 mois et je pense que Sinner a gagné son pari.
Alors Eric, évidemment, tu restes avec nous. Yannick Sinner, justement, suspendu 3 mois pour dopage. Est-ce que la lutte antidopage est décrédibilisée? C'est le thème du bras de fer. Alors, je revois les équipes, hein. Désolé, c'est bien Jérôme Pinault avec David Douillet dans la team OUI. Et donc, Pascal Duprat, toi, tu as dit non.
Et pourtant hier j'ai dit mais ils se foutent de notre gueule là-bas.
Oui,
et j'ai dit non parce que depuis hier j'ai réfléchi et j'ai surtout lu, j'ai tenté de comprendre, ce qui est difficile à comprendre, j'en conviens. Mais en fait, Sinner, il est pas dopé tout simplement. Donc puisqu'il n'est pas dopé, l'AMA est obligé de faire machine arrière pour pas perdre la face. En fait, c'est ce peut-être ce qu'on doit reprocher à cet organe chargé de la lutte antidopage, c'est qu'elle a voulu trop s'en prendre au numéro 1 mondial. C'est comme ça que je l'interprète, parce qu'en fait sa seule responsabilité, et ce sont des experts qui l'ont dit, sa seule responsabilité, c'est d'avoir été négligent
oui,
avec les personnes qui sont autour de lui et qui lui ont administré à son insu.
C'est sa défense, ça.
Donc
Pascal.
Pour ça,
donc toi, tu acceptes sa défense,
Christophe,
comme ça,
laisse-moi
comme
terminer. Déjà, bon, déjà,
il n'est pas 89%. Tu prends 89%.
Pour ça contre moi. Okay. Laisse-moi finir.
J'ai compris ta position.
Non, mais moi
donc
je pense que
chaque fois qu'un mec dit je suis pas dopé, Pascal Duprat.
Non, mais je voulais faire. Je voulais faire un parallèle. Un parallèle triste avec le vélo.
Ah. Okay. Ça fait longtemps, tiens. Ah,
un parallèle.
Parce que
le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone. C'est pas ce qui fait Sinner. C'est pas la même chose. Sinner, il n'est pas dopé. Mais tu penses que l'AMA
et tous les coureurs sont des chaudières.
Non,
bien sûr, Pascal.
Attention,
mais laisse-moi terminer. Sinner n'est pas dopé, ce sont des experts des deux parties qui en ont convenu. Alors, ça n'améliore pas sa performance. Or, quand on prend du monoxyde de carbone,
ce produit-là, on est d'accord.
Oui, ce produit-là.
On ne doute pas que ce produit-là vienne d'ailleurs d'un quelque chose de plus. C'est pas possible.
Dans ces quantités-là.
Évidemment. Je vais te parler d'une affaire d'un Espagnol il y a quelques années.
Espagnol avec les doses infinitésimales. Dans un steak contaminé.
Tu as fini ta démonstration.
Et donc, tout simplement pour dire que l'AMA veut faire machine arrière, et en cela, leur attitude, ils prêtent le bâton pour se faire battre. Il aurait suffi qu'ils allent en appel, comme ils en avaient décidé, parce que j'ajoute que ce petit arrangement entre amis de 3 mois de suspension fait que l'AMA n'ira pas en appel. Mais il aurait mieux fait d'aller en appel, et puis de perdre. L'AMA aurait perdu, Sinner n'aurait pas été suspendu, et ce matin, on n'aurait pas fait de débat.
Mais non.
Ce qui se passe, c'est scandaleux, je suis désolé. C'est vraiment
vas-y,
scandaleux.
David, et après la réponse de Jérôme.
Sincèrement. C'est-à-dire que, en fait, l'AMA n'a jamais fait le distinguo entre quelqu'un de dopé et quelqu'un de positif. Et je m'explique. Il y a eu des jurisprudences dans le passé où on avait des gens qui étaient positifs à un contrôle, mais pas suffisamment avec de faibles quantités de produits, qui n'avaient aucune action dopante. Vous voyez la différence. Et pour tous ces cas, ils ont été condamnés comme s'ils étaient dopés. Et aujourd'hui, grande, la mer s'ouvre en deux. Monsieur Sinner arrive avec son bâton et Moïse passe le truc en disant voilà, bon, moi j'étais pas dopé, je suis positif, mais je suis pas dopé, donc j'ai pas triché, etc. Et donc moi j'ai le droit de prendre 3 mois, alors que tous les autres avant ont pris 1 an ou 2.
Mais est-ce que c'est pour les mêmes quantités, pour les mêmes faits répréhensibles?
Mais on s'en fout des quantités. À partir du moment, comme tu le dis, à partir du moment, et c'était le même profil, à partir du moment où tu as des experts qui disent, voilà, oui, il y a un produit qui est interdit, qui est dans ses urines ou dans son sang, mais en quantité insuffisante pour être dopé. Voilà le postulat de départ. C'est le cas Sinner. Oui. Eh ben, avant, les types prenaient plein pot, on les considérait comme dopés. Depuis aujourd'hui, depuis le cas Sinner, maintenant, on est en droit de discuter. Ça va faire jurisprudence. Mais donc, aujourd'hui, l'AMA s'est complètement décrédibilisé au regard de ce qui s'est passé avant. Et moi, ce que je dirais, c'est j'encourage tous les athlètes qui sont passés dans cette moulinette d'avant de porter plainte et de revenir sur ce qui s'est passé.
Tout le monde n'a pas les mêmes moyens que Sinner qui a pu prendre.
Mais absolument, mais c'est scandaleux. Les pauvres ont le droit de se faire broyer et le mec qui est riche, il s'en sort sans vergogne.
Au tennis, il ne doit pas y avoir beaucoup de pauvres quand même parmi les meilleurs, non?
Ah, détrompe-toi.
Moi, je parle de tout sport confondu.
Il l'a dit à Marseille hier.
Qui?
Si ça tombe, Benjamin Bonzi.
Ah oui, bien sûr.
Il a dit, si ça tombe sur moi, je prends 2 ans.
Ah oui.
Il y a la richesse du sportif et la richesse du sport. Moi, je veux intervenir sur une chose. Il y a 3 sujets là-dedans. Il y a déjà la position du sportif par rapport à son sport. C'est-à-dire que c'est le numéro 1 de son sport. Son sport lui-même, qu'il faut pas attaquer. Parce que si c'est un cycliste, tout numéro 1 qu'il est, il prend 2 ans. Alberto Contador, pour des nanomilli machin de clenbutérol, il a été suspendu. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on suspectait le transfusion sanguine, le dopage sanguin dans le vélo. Ah mais parce que dans le tennis, c'est pas possible. On peut pas faire des poches de sang dans le tennis pour récupérer après chaque tournoi. Arrêtez de vous foutre de la tronche des gens. Comment on peut négocier une suspension quand t'es numéro 1 mondial aujourd'hui? Tu peux pas négocier. T'es dopé ou pas dopé s'il y a suspicion. Il y a des experts pour ça. On a eu le professeur Alvarez. Il y a trois semaines, il y a une méthode pour savoir ce qui s'est vraiment passé grâce à l'étude des cheveux. Je peux te dire que si c'est un cycliste, il prend 2 ans, il passe pour une chaudière et il est radié de tout le monde. Là, on s'est arrangé avec Monsieur Sinner. C'est juste scandaleux ce qui s'est passé. C'est juste un scandale. Il y a 2 poids, 2 mesures en fonction des sportifs et en fonction des sports.
Voilà. Pascal, qui est le président de la Fédération internationale de.
Et la troisième, David, et là je te rejoins encore plus, c'est Lama. Si Lama ne met pas une suspension à Sinner, il ne sert plus à rien, Lama. Mais c'est le TAS. Mais et donc il n'y a plus de ronds et on ne peut payer les mecs. Est là aussi le problème. Il est politico-économique. Il ne faut pas que Lama disparaisse. Il y a des gens qui croquent dans le gâteau de Lama. Et donc Lama, qu'est-ce qu'elle fait? Plutôt que de passer pour des peintres, encore une fois, il donne une sanction. On s'arrange avec le mec.
Alors
et
que
nous,
peut-être
on est pas
il n'aurait pas dû la donner alors. Tu t'en conviens de ça?
Si ça va au TAS, Pascal, mais la sanction pour moi, elle est simple. Le mec, il a des traces d'un produit dopant dans le corps, avec les différents experts qui arrivent à prouver qu'il y a bien le produit, mais on ne sait pas la méthodologie. Moi, ce qui m'inquiète et ce qui me fait peur, c'est qu'on efface complètement la possibilité que Sinner ait pu faire quelque chose de beaucoup plus grave que ça. Et ça m'agace.
Tu penses à une cure?
Je pense
disons
à une cure.
Mots, disons les mots.
Je pense à de l'autotransfusion, la transfusion sanguine pour mieux récupérer. Tout le monde se plaint qu'ils enchaînent les matchs et qu'ils jouent beaucoup. Et c'est un fait. Et qu'est-ce qui se passe dans les sports où on enchaîne les compétitions à très haut niveau? Eh ben, malheureusement, le dopage sanguin existe. Je peux t'en parler. Je viens d'un sport où on utilisait ça, ou peut-être encore on utilise ça. Et on a retrouvé parfois des poches de traces de plastique, des traces de clambutérol. Eh oui, mais
on a
si
beau
c'est
faire
un
la chasse aux cyclistes, ça continue, si, en train de me si dire que ça continue.
Mais si c'est un cycliste, je te dis qu'avec ce même produit, il prend 2 ans, c'est sûr et certain.
Alors, Christophe,
c'est le deux poids deux mesures qui est insupportable.
Exactement.
À la limite que depuis le début, si Lama, depuis le début de son existence, n'avait pas condamné lourdement ceux qui avaient des traces de produits sans que ça puisse être dopant, moi ça me va, tu vois. Mais c'est pas le cas.
C'est-à-dire que depuis le début,
ils ont condamné des mecs qui n'étaient pas dopés, mais qui étaient positifs, à des peines maximales. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est intolérable. Ouais. C'est pas possible.
Lama est en train de se ramollir. Lama, c'est quand même l'Agence mondiale antidopage qui avait été créée à la suite du scandale Festina, qui a été créée, dirigée par, de main de fer par un certain Dick Pound, qui était un vrai taulier et qui vraiment s'attaquait à tous les dopages et qui a dévoilé pas mal d'affaires. Mais depuis son retrait, ce n'est plus qu'une bande de fonctionnaires internationaux qui gèrent le truc entre eux, qui ont peur de leur ombre, qui ont peur d'être attaqués par les avocats les plus costauds de la Terre, qui vivent avec 46 millions de dollars de budget tous les ans et qui veulent surtout pas
diminuer
de gros scandales. Donc on s'arrange petit à petit entre amis, c'est ce qui se fait de plus en plus dans certaines justices aux États-Unis. Tu sais que même si tu as assassiné quelqu'un, tu peux t'arranger avec le procureur pour pas qu'il y ait de procès en acceptant une certaine peine. Eh ben, j'ai l'impression qu'on en est un peu arrivé à la même chose.
Avec Sinner, il a assassiné personne, Christophe.
Non, mais me comprends
pas. Arrête.
Te fais pas plus idiot que tu es, franchement, Pascal. C'est débile ce que tu dis. Donc, c'est pas la peine.
Mais non. Non, mais tu m'attaques. Merci, Christophe.
Mais non, mais évidemment qu'il a assassiné personne. Je t'explique juste pour te donner une image, pour t'essayer de comprendre ce que je veux dire.
Il y a eu un cas précédent dans notre sport, dans mon sport, dans le cyclisme. Il y a eu quelque chose qui s'apparente à ça. Rappelle-toi, Chris, c'est quand Chris Froome a été pris positif. Il y a eu un gros débat là-dessus. Et finalement, Chris Froome a été semi-blanchi, en tout cas, a été suspendu rétroactivement de quelques mois. Parce que, à l'époque, l'équipe Sky, avec ses grands financiers, était très puissant. On s'est quelque peu arrangé avec tout cela aussi. Et je ne peux pas imaginer aujourd'hui que ce qui s'est passé dans le cas Sinner soit quelque chose de plus puissamment similaire. Ça n'est pas possible pour moi d'imaginer qu'on suspende ce garçon s'il était, Pascal, et c'est là que je suis pas d'accord avec toi, s'il était positif, s'il avait pris un produit dopant, mais que ce produit n'activait rien et que c'était prouvé que ça n'était pas sa faute,
stupide.
Il aurait été blanchi. Il aurait été blanchi.
Là,
en mettant cette sanction, on s'arrange avec le règlement. Il a pris, mais bon, on va pas passer au travers de cela. On va quand même le condamner.
Et puis ça donne l'impression
combien,
que c'est lui qui décide de sa suspension.
Je continue à penser. Alors,
moi, je pense qu'il a beau être numéro un du tennis. Ils vont pas se décrédibiliser sous prétexte qu'il est numéro un.
Bien sûr que
au tennis. Franchement, j'arrive pas à croire à votre thèse. Je préfère croire à celle que je développe ce matin, à savoir.
C'est ton côté romantique.
Il n'était pas dopé. Il a été contrôlé positif. Et je préfère rejoindre la ligne de David qui dit qu'il y a des précédents où ils ont agi de façon différente. Alors il y a deux poids, deux mesures. Je veux bien concéder cela. Ça permettra donc à partir d'aujourd'hui à ce qu'il y ait jurisprudence évidence et que Lama ne fasse pas de cas particulier.
Juste un dernier exemple avec Lama. Vous vous souvenez de cette affaire des 23 nageurs chinois qui avaient utilisé une molécule, c'était avant les Jeux de Tokyo. Eh bien, en disant que c'était, ça, ils avaient été de manière environnementale, ils avaient retrouvé ça dans leurs urines. Eh ben, Lama avait avalé le truc et avait autorisé ces 23 nageurs. C'était pas un, c'était pas deux, c'était 23 nageurs chinois à participer aux Jeux de Tokyo sans que cela pose problème à Lama. Et tous ces gens-là sont allés glaner des médailles, remporter des titres. Alors, heureusement que parmi les autorités antidopage, il y a une agence gouvernementale américaine qui s'appelle USADA, qui est dirigée par un certain Travis Tygart, qui est le mec qui a fait tomber Lance Armstrong et qui s'est insurgé contre cette décision de Lama et qui a réussi à faire avancer les choses. Mais aujourd'hui, Lama s'est ramolli complètement. Petite et heureusement qu'il existe Lama, quelques grands patrons d'agences gouvernementales qui essayent de faire bouger les choses.
Petite précision pour vous aussi et pour ceux qui nous écoutent sur Lama. Hein. Le financement de Lama, ça provient des gouvernements.
En partie du CIO du monde et des gouvernements.
C'est important de le signer.
Mais bon, je ne sais pas si on peut considérer que l'agence antidopage chinoise fait le même boulot que l'agence française antidopage.
Suite à ça, j'ai une très grosse pensée pour Franck Bonamour, coureur cycliste breton, qui a été suspendu, accusé de dopage pour un contrôle longitudinal irrégulier sur son passeport biologique. Malheureusement, Franck Bonamour n'est pas tennisman, il n'est pas numéro un mondial. Il a dû vendre une première maison pour se défendre. Manque de moyens, il s'est arrêté dans sa lutte. Quand je vois ça, ça m'écœure.
C'est le cas que tu évoquais tout à l'heure, Eric. Oui. C'est-à-dire que quand tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas te défendre et tu ne peux pas prouver.
Tu te tais et tu arrêtes ta carrière.
Et voilà.
Le sport à deux vitesses est insupportable.
Merci beaucoup Eric d'être venu, d'être passé pour arbitrer ce bras de fer, remporté haut la main par la team. La lutte contre l'antidopage s'est décrédibilisée. Désolé Pascal, mais tu t'es bien battu. On reste à 89% contre 11%.
Il m'a griffé.
Bravo Pascal.
Je me suis battu, je me suis fait insulter. Enfin bref, j'ai ramassé ce matin.
Pascal, ne t'inquiète pas. Et tu vas rester.
Je vais aller voir mon copain Nasser, tu vas voir.
Parce qu'on t'aime pour ce courage et ce romantisme, tu vois, c'est pour ça que tu es dans l'émission. Merci Eric, on revient dans un instant avec la punchline de Joseph Ougourlian, le président de Lens, qui est très sévère envers Vincent Labrune au sujet des droits télé. Vous allez l'entendre et vous allez tout comprendre. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h35, vous écoutez les grandes gueules du sport. Jérôme Pinault, David Douillet, Pascal Duprat, Christophe Cessieux en grande forme ce matin. N'hésitez pas à retrouver également le podcast des grandes gueules du sport sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes de podcast. Un petit point sur les GG contre-attaque, puisque c'est dans un instant les GG qui vous ont proposé un débat. Et pour l'instant, c'est extrêmement serré. Je crois que ça n'a jamais été autant serré dans l'histoire des grandes gueules du sport. Mais là, vous vous tenez tous, vous pouvez encore gagner dans 10 minutes. Pour l'instant, est en tête le débat proposé par Jérôme Pinault, Pogacar sur Paris-Roubaix. Est-ce que ça serait une bonne idée? 27%, 1% seulement d'avance sur Pascal Duprat et son débat sur Vannes en rugby va-t-il se maintenir? Juste derrière, on retrouve Christophe Cessieux avec la Géorgie au tournoi Destination, pourquoi pas, 25%. Et puis, on retrouve un petit peu plus bas, en quatrième place, David Douillet, mais qui peut encore gagner 22% avec le sport français est en grand danger. Bref, voilà, que des.
Allez voter, n'hésitez pas à sortir de votre lit. Votez sur ces pauvres Georgiens qui méritent le tournoi Destination, s'il vous plaît.
Léna Marjac, qui est à Salbar, pour faire le point. Tous les Français sont passés, Léna, à Salbar lors des championnats du monde, la manche 1 du slalom.
Oui, tous les Français sont passés. Clément Noël, toujours leader, et ça va pas bouger. Il fermera donc le portillon de départ. Et d'ailleurs, il est passé à notre micro tout à l'heure. Et il s'était imaginé cette situation, c'est-à-dire zéro médaille pour l'équipe de France et lui refermer le portillon de départ pour potentiellement aller remporter cette première médaille pour l'équipe de France. Il nous a dit que ce seront des émotions vraiment particulières. On a hâte de vivre ça tout à l'heure. Et puis, Steven Amier n'a pas bougé non plus. Il est septième ex aequo avec un Suisse à 1 seconde 49 exactement de Clément Noël. Noël. Malheureusement, ça n'est pas passé pour Paco Raça qui, sur une faute d'intérieur, est sorti. Et Victor Mufa-Jandé, lui, est 17e. Il verra normalement, c'est même sûr, la seconde manche tout à l'heure à partir de 13h15.
Et on y sera avec toi, Léna, et avec Bastoun, bien sûr, aux commentaires. Deuxième manche de ce slalom et peut-être première médaille française. On l'espère, bien sûr. Mais d'abord, sur RMC, c'est l'heure de la punchline GG signée Joseph Ougourlian, le président de Lens, hier chez nos confrères du Parisien.
RMC, la punchline GG.
L'erreur d'Azone est pire que celle de Mediapro. Pour Mediapro, on peut dire « J'ai fait une erreur, mais je ne vais pas la refaire ». Mais avec DAZN, on a persévéré dans cette erreur et on a perdu le consommateur. Cela a conduit à perdre nos clients, les consommateurs de foot sur la télé payante, et c'est la responsabilité de la Ligue et de son président.
Le président de Lens qui a sévèrement taclé la Ligue, donc, et Vincent Labrune au passage. C'est un opposant déclaré, on le verra, à Vincent Labrune. Ce à quoi la Ligue a répondu à RMC via un proche du président de la Ligue. Dire que l'erreur d'Azone est pire que Mediapro n'a aucun sens. En 2018, les dirigeants de la Ligue, à l'époque, avaient le choix entre Mediapro et Canal. Et en 2024, le choix, c'était d'Azone. Ou DAZN, car Canal ne voulait pas participer. Au-delà de ce duel, d'autres présidents de club vont peut-être prendre leur distance avec Vincent Labrune, d'où cette question, les GG. Pour le bien de la Ligue 1, Vincent Labrune doit-il partir ? Oui ou non, Christophe Cessieux ?
Oui, mais je ne sais pas si ça changera grand-chose.
David Douillet.
Même position que Christophe.
Jérôme Pinault. Oui. Pascal Duprat.
Eh ben, je suis encore tout seul. Je vais dire non.
Très bien. Avant de t'entendre, Pascal.
De Nasser, avocat de Labrune, avocat des dopés.
Avocat de personne.
On retrouve Arthur Perrault. Merci d'être de retour, Arthur. Rebonjour. Oui, parce que les présidents de Ligue 1 sont plus divisés que jamais. Hein.
Oui, et le collège Ligue 1, d'ailleurs, est aujourd'hui au bord de l'implosion. D'un côté, les frondeurs comme Joseph Ougourlian de Lens, Saïd Chaban d'Angers ou encore Jean-Michel Roussier du Havre. De l'autre, les fidèles de Vincent Labrune, Laurent Nicolin de Montpellier, Jean-Pierre River de Nice et Jean-Pierre Caillot de Reims. Ce dernier a menacé vendredi de quitter son poste de président du Collège des clubs de première division. Un message renouvelé dans le groupe WhatsApp des dirigeants de Ligue 1. Je le cite, « Je ne veux pas de polémique, j'ai suffisamment de respect pour beaucoup d'entre vous, pas tous. Je suis très affecté d'être tenu responsable comme membre d'une soi-disant clique. Des mots forts qui ne semblent pas avoir touché le camp des opposants. Par message, Joseph Ougourlian lâche à Nasser Al Khelaifi. Caillot fait du super boulot pour toi, Nasser, pas pour nous. La Ligue 1 est devenue le championnat de foot le plus inégalitaire du monde. Merci à la bande à la brune.
Merci à Arthur. Tu Ambiance. Restes avec nous justement pour arbitrer ce débat. Pascal, pourquoi toi tu ne dis pas que Vincent Labrune doit partir pour le bien du football de la Ligue 1?
Parce que c'est pas à lui de partir. Je vais faire simplement un rappel. Ok, je suis pas là pour défendre Labrune plutôt qu'un autre, comme j'étais pas là tout à l'heure pour défendre Nasser. Je suis simplement là pour le bon sens et pour que le football continue à avancer, parce que là, l'heure est grave. Donc je voudrais simplement dire une chose, en septembre 2024, c'est il y a pas longtemps en fait, tous les présidents de club ont réélu Labrune à 85% de voix pour, contre Cyril Linette, notre ami, vous vous en souvenez? Donc c'était un plébiscite pour sa réélection. Et quelques mois après, voilà pas que tout le monde se fâche, tout le monde s'engueule, et vous voudriez que Labrune y démissionne. Mais Labrune, son contrat, c'est pas lui qui l'a signé. C'est le conseil d'administration de la Ligue, donc les présidents de club qui l'ont signé. S'il a aujourd'hui des avantages, s'il a des parachutes dorés dans tous les cas de figure, c'est pas de sa faute, il a défendu simplement son biftec. Je voudrais simplement dire une chose, quand il est arrivé à la tête du football français, il y avait le Covid et il y avait l'affaire Mediapro. C'est-à-dire que la France avait double peine. Le seul championnat qui s'est arrêté en mars en Europe, c'est le championnat de France. Plus une recette pour les clubs professionnels. Heureusement que Labrune et ses amis, ils ont réussi à décoter la régie commerciale avec un produit d'1,5 milliard pour le football français. À ce moment-là, ça a bien aidé les finances des clubs, non? Donc, il est responsable de quoi? Il est responsable du fait qu'il avait promis que les droits télé auraient été dépassé le milliard, et il se trouve que c'est que 2 500 millions, parce qu'il n'y a pas de d'autres offres que DAZN, ok. Mais cette responsabilité là, elle doit pas lui vouloir qu'il démissionne. Si les présidents de clubs sont pas contents de la brune, faut simplement qu'ils se réunissent et qu'ils fassent en sorte de le changer. C'est pour ça que j'ai répondu non.
D'accord, ok, c'est très clair. David.
Moi, je pense que le problème, il est bien en amont de Vincent Labrune, c'est sur la valorisation des droits. La Ligue Pro se berce dans une illusion absolue depuis des années et des années. Les droits sont surévalués et une offre que
propose... Parce que tous les autres championnats progressent, David aussi, c'est pour ça.
Je sais, mais je sais bien, c'est bien, mais nous, on est en France avec des Français qui consomment et qui consomment pas comme les autres. Et je suis désolé, une offre dépend d'un modèle économique. Et ce modèle économique, il est pas solide. La preuve, parce que le conflit qu'on a aujourd'hui avec DAZN, la Ligue reproche à DAZN, DAZN reproche à la Ligue de ne pas avoir sécurisé, il y a du piratage, je ne sais plus quels sont les arguments, mais bref, ils retiennent l'argent, ils veulent pas payer la Ligue parce que... Ouais. Il considère que la Ligue ne fait pas son boulot quant à la protection de ce championnat par rapport à des clients éventuels qui pourraient arriver, qui existent peut-être ailleurs en trafiquant la captation des images. Mais je suis désolé, mais au départ de tout ça, on se berce d'illusions. Le football français, je pense, c'est mon avis, se berce d'illusions.
Pas d'accord avec
toi. En se disant. Peut-être, mais en se disant, nous, on vaut 1 milliard, on vaut 1,5 milliard, on vaut.
Ils en étaient pas loin, du temps de Canal et de Bein.
Mais bien sûr, mais c'est pas le cas. Vous valez ce que le modèle économique est capable de générer comme argent, c'est tout. Et si on part pas avec cette logique-là, eh bien, on aura toujours ce genre de problème avec des gens qui vont acheter les droits et qui seront pas en capacité de payer.
Après, autre argument quand même. En défaveur de Vincent Labrune, c'est que on a l'impression qu'avec Canal+,
c'est pour ça.
Alors tout le monde s'imagine ça. Je réponds tout de suite, comme ça va vous aider dans votre débat. Tout le monde s'imagine que c'est lié à la présence ou non de Vincent Labrune. Alors pour avoir échangé avec des dirigeants de Canal+ il y a 3 jours,
non,
on m'a répété
pas que ça.
C'est que ça n'a rien à voir avec Vincent Labrune. La première raison avancée par Canal+, c'est un dédommagement sur le dernier cycle où ils estiment avoir été lésés. Voilà.
Oui, mais au départ, faut appeler un chat. Qui manage tout le process de l'appel d'offres et qui décide que la ligue
c'est le patron,
vaut
c'est le président,
un milliard.
C'est le rôle d'un président. C'est le rôle
et
d'un
il en
président.
Est responsable.
Le président
est-ce que
le rôle
du président. Attends, est-ce que le président n'aurait pas dû à ce moment-là dire attention les gars, vous êtes tous dans les gars. La ligue ne vaut pas ça. Voilà, elle vaut 500 millions, okay. Ou 600 millions, ou 700 millions. C'est ça le rôle d'un président, et de revenir à une réalité économique qui aujourd'hui n'est pas là dans la tête de tous les présidents de clubs.
Jérôme Pinon.
Ouais. Moi, je réponds oui parce que à la tête de la Ligue aujourd'hui, il faut un vrai patron d'entreprise. Un vrai patron d'entreprise qui prend des vraies décisions. Déjà, il faut savoir que depuis 2019, à part Amazon qui est parti au bon moment, la Ligue est en procès avec tous les diffuseurs. C'est un fait. Il y a eu un procès avec tous les diffuseurs. Aujourd'hui, pour moi, le patron d'une ligue comme celle du football doit proposer autre chose et doit mettre en avant autre chose qu'à des présidents de club que je ne reconnais pas, puisque ce sont tous des grands chefs d'entreprise, qu'un Cheikhos a encaissé avec n'importe quel diffuseur. On doit aussi s'inquiéter du contenu. Comment on va mettre en beauté ce qu'on va acheter et comment on va diffuser notre spectacle? Création de nouveaux produits, création de produits digitaux pour attirer un nouveau public. Aujourd'hui, DAZN, il nous offre quoi? Rien. Tout le monde se plaint de l'IPTV. Peut-être. La Ligue aurait dû réguler. Non, parce que de toute façon, le produit est trop cher, le produit est pas beau. Il a vendu quelque chose et il ne se soucie guère. C'est
les images qui sont produites et qui sont diffusées sur DAZN sont fabriquées par une boîte qui appartient à la Ligue. Hein.
Je ne parle pas ça, Christophe.
Donc en fait, la qualité de la retransmission, ce qui se passe, c'est pas dû à DAZN.
C'est plus l'aspect éditorial qui est en question. C'est
exactement.
Pas l'image. L'image
mais là aussi, c'est les clubs qui laissent
mais,
pas mais entrer
qui,
les équipes éditoriales dans les vestiaires.
Qui doit appeler les présidents en disant arrêtez de vous plaindre et déjà essayons de faire et de marketer et de mettre en beauté ce produit. C'est le président de la Ligue. aujourd'hui, moi, je veux bien qu'on me dise les gens vont sur l'IPTV. Mais t'as vu le prix que ça coûte pour le produit qu'on a ? C'est au président de la Ligue de prendre des décisions et de dire hey, « Eh les gars, jouez le jeu, au moins ouvrez. Faisons en sorte que ça se passe du mieux possible dans cette catastrophe actuelle. » Et aujourd'hui, je suis désolé, Vincent Labrune n'a pas le profil du chef d'entreprise que doit être le président de la Ligue.
Arthur et puis Christophe, un mot juste sur ça, sur l'aspect les clubs ne jouent pas le jeu. Donc ça a été un des arguments avancés ces derniers jours par DAZN. Vincent Labrune en a fait part aux présidents de clubs qui sont membres du conseil d'administration et du coup ces présidents de clubs lui ont tout simplement demandé bah dites-nous qui sont les clubs concernés qui selon DAZN ne jouent pas le jeu. Et Vincent Labrune n'a pas voulu communiquer l'identité de ces clubs-là.
La grosse interrogation et je pense que ce qui pousse aujourd'hui certains présidents de club à vouloir mettre Labrune dehors, c'est l'espoir, mais tu l'as dit tout à l'heure, l'espoir que Canal puisse revenir dans le dossier, mais a priori, ils veulent pas le faire. Ça. Ils ont investi, je sais, ils ont investi sur la Ligue des Champions, ils ont investi sur la Formule 1, sur le rugby, ils ont tous leurs moyens sont alloués ailleurs. Voilà. Donc le mirage d'un retour de Canal dans la Ligue 1, ce n'est qu'un mirage. Donc il ne faut pas surtout croire à ça.
Et il faudra que les majeurs, si on a un candidat à la présidence de la LFP pour gérer le football professionnel dit vos droits ne valent pas 1 milliard mais valent 500 millions et il faut embellir les choses etc etc, il sera jamais élu. Donc le gars il arrive avec des promesses qui sont intenables. Ils sont intenables ces promesses. Donc c'est pour ça que ça marche pas. Et je suis d'accord avec toi, il faut un vrai chef d'entreprise qui dise la vérité à tous ces présidents
de club. Et mettre à la raison les présidents de club en essayant de leur faire comprendre que leur produit ne vaut pas ça.
Il y a une nouvelle réunion lundi, on la suivra évidemment avec toi Arthur, entre les présidents de club et la Ligue justement, parce que la Ligue va donner de l'argent au club pour justement les dépanner, on va le dire comme ça.
C'est un pansement sur une jambe de bois.
Oui mais bon c'est pour les... Ils en ont besoin puisque DAZN n'a pas donné la totalité de la somme. Vous restez avec nous parce que dans un instant, alors on va savoir qui a remporté les GG contre-attaque. Il y a 4 très bons débats et vous êtes encore peut-être indécis. Alors allez voter. Il vous reste une petite minute seulement avant d'en débattre. Allez sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. On en parle dans un instant. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.
François Pinet.
Les Grandes Gueules du Sport, David Douillet, Christophe Cessieux, Pascal Duprat et Jérôme Pinault. Dans un instant, dans la seconde, on va parler des JO 2030 et d'Edgar Gros-Piron. Mais d'abord, vous le savez, à cette heure-ci, les GG prennent les commandes de l'émission.
Faut encore voter là ?
Faut
encore
voter ? Non, c'est trop tard.
Ah non, comment ça, c'est trop tard ?
Les GG contre-attaque.
Oh et oui, c'était extrêmement serré pour le débat des GG. Quatrième position, David Douillet, 22%. Pascal Duprat, troisième, 25%. Christophe Cessieux, deuxième, 26%.
Mais la team RMC s'est trompée.
Et c'est Jérôme
Pinault. Il pensait que je faisais le sujet sur Pogacar. Les gars, regardez, vous ne m'écoutez pas. Voilà. Je voulais parler de la Géorgie.
Voilà, les et là, vous avez voté pour Jérôme Pinault. C'est à toi Jérôme, on t'écoute sur ton débat.
C'est surtout que les fans de Christophe Cessieux ont cru que j'allais parler de la Géorgie. Voilà.
C'est une tête de Géorgien
peut-être. Pinochvili.
C'est pas mal. Pogacar Paris-Roubaix. Est-ce que ça serait une bonne idée ?
Ouais, en fait, ça tout part d'une communication, d'une vidéo qui a fait frémir et bondir un grand nombre de supporters cyclistes et suiveurs de Tadej Pogacar, amoureux de Paris-Roubaix, puisque cette semaine, Tadej Pogacar, en compagnie de son coéquipier Tim Wellens, est allé repérer les pavés du Tour des Flandres. Mais comme Tim Wellens est aussi le leader de cette équipe, ou l'un des grands leaders de cette équipe UAE pour Paris-Roubaix, ils sont allés, et ils en ont profité, dans la région voisine, pour repérer le pavé d'Arambert et l'ensemble des secteurs pavés de Paris-Roubaix. Alors là, tout de suite, la toile s'est enflammée. Pogacar va faire Paris-Roubaix. Les coureurs s'en sont mêlés. Philippe Sen a dit « Et pourquoi pas ?» Mathieu Van Der Poel a été interrogé à ce sujet-là. Lui, le grand favori de Paris-Roubaix. Que pensez-vous de Tadej Pogacar sur Paris-Roubaix ? Il dit que c'est une bonne idée, que ça donnerait encore plus d'attrait à la course. Et il y a toute cette partie de haineux anti-Tadej Pogacar qui disent qu'il n'a rien à y faire, que ça pourrirait la course, qu'il allait encore une fois dominer cette course. Eh bien, et moi, alors, je fais partie des... fervent supporter de la plus belle course du monde qu'est Paris-Roubaix avec les plus grands coureurs au monde. Et je trouverais ça génial qu'un génie comme Tadej Pogacar, qui, rappelons-le, n'est pas Jonas Vingegaard, fait pas 3 courses dans l'année, il fait toute la saison et il vient sur le pavé de Roubaix dans l'idée un jour de le faire. Alors, est-ce que ce serait une bonne idée ? Pour moi, oui, parce qu'un coureur comme lui peut se permettre de faire Paris-Roubaix, de gagner Paris-Roubaix ou de jouer les tout premiers rôles et d'enchaîner sur le programme qui est prévu pour lui, puisqu'on le rappelle, pas de Giro pour Tadej Pogacar cette année, un stage en altitude, le Dauphiné libéré, le Tour et la Vuelta.
Mmh. On dit que ce serait de prendre trop de risques en vue des tours qui arrivent derrière.
Alors, est-ce très bonne plus question, dangereux Christophe. On aurait pu préparer débat tous les deux. Bah, on aurait pu préparer tous les deux parce que je m'attendais à ce que tu me poses cette question et j'ai une réponse très simple. Il va courir 36 jours de course avant le départ du Tour. 36 jours de course, 36 fois le risque de tomber.
Oui, bien sûr.
36 fois le risque de s'abîmer. Et je dirais même que d'aller faire Paris-Roubaix quand on s'appelle Tadej Pogacar, c'est peut-être prendre moins de risques que de participer à la première étape de l'UAE Tour. Parce que Paris-Roubaix, quand t'es costaud, tu rentres dans les tranchées, dans les 10 premiers, tu sais où tu mets tes roues, et lui sera de toute façon protégé. Alors oui, il y a un risque de glisser. Et on sait qu'on peut y perdre une rotule. Johan Mousseau en a fait les frais. Mais Paris-Roubaix n'est pas plus dangereux qu'une autre course. Et quel bonheur de voir le meilleur coureur du monde avec le plus beau maillot du monde sur les épaules s'aligner dans l'une des dernières épreuves mythiques et romantiques.
Et ça en ferait véritablement, s'il s'impose sur Paris-Roubaix, l'égal d'Hino et de Merckx qui détestaient aussi cette course, surtout Bernard Hino, et qui pourtant un jour se sont alignés au départ à Compiègne et ont remporté l'Enfer du Nord. Et c'est tout en haut dans leur palmarès. Et pour devenir le greatest de GOAT, comme on dit,
Pogacar
doit un jour participer
à Paris-Roubaix. La réaction, je terminerai par ça, mettre en valeur et en beauté et en lumière la réaction de tous ses adversaires directs. Van Aert, Van Der Poel, Philipsen, Mats Pedersen, les quatre ont dit,
ils ont envie.
Ce serait génial qu'ils viennent parce que cette course mérite le plus beau des vainqueurs. Mmh. Moi, je trouverais ça fantastique.
Et toi aussi, David, tu partages ce que dit Jérôme ?
Ah ouais. Moi, je suis un passionné de vélo et il faut être fort partout pour être incontesté, incontestable. Et il a toutes les qualités pour le faire. Donc voilà.
Bon ben voilà, on a fait effectivement un bon débat. Je pense qu'on pourra le refaire. Hein, ce débat évidemment plus en longueur. Bon,
en fait, c'était pas un débat, François.
Bah, tout le monde est d'accord.
On est tous d'accord.
C'est pas un débat, à la petite virgule que j'ai eue cette semaine. Par téléphone, son manager Mauro Gianetti qui m'a dit
faut faire le débat avec.
Il n'y a pas d'histoire, il n'y aura pas de Pogacar. Pas cette année.
Tant que la main fait preuve de mollesse, donc c'est bon.
Ah, ça y est, il est resté sur le débat.
On devrait mettre la brune et Nasser.
Maître du bras à parler, maître du bras, l'avocat des
forts. Est-ce que Yannick Sinner pourrait gagner Paris-Roubaix? C'est ça la question.
L'avocat des forts et des puissants. Maître du bras, il arrive avec une énorme
valise. Et avec une raquette. Je dis, c'est un sac à dos.
Mais ça coûte cher. Les honoraires de maître du bras, peuvent nous dire que ça coûte bonbon.
Pascal Dupraz, alias Marcel Pagnol, le romantique.
Allez, on revient dans un instant. Et bien sûr, dans un instant, on va parler des JO 2030. Et on va les comparer avec Paris 2024. Je vois déjà Christophe s'agacer de cette comparaison. Ouais. Mais nous, on va comparer ça. Est-ce que le match est déjà perdu d'avance? Vous restez avec nous, bien sûr. Les grandes gueules du sport reviennent dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.